La vallée des loups commence et s'achève près d'une même image sur un homme en bivouac pour donner le la d'une recherche solitaire. C'est offrir aussi d'entrée une image forte, souvenir d'une veillée autour d'un foyer, bien qu'il nous apprenne que faire du feu effraie le loup. Avant de découvrir le cinéaste en pied, c'est-à-dire en entier dans le cadre, nous le découvrons par fragments, avec un souffle, des pieds marchant dans la montagne, une main qui allume un feu. C'est bien la performance physique qui est soulignée, le corps comme outil et notre savoir d'homo habilitus. Tantôt, le réalisateur marche à pied sur la crête des montagnes, un bâton à la main. Tantôt, un couple de chevaux l'aide à porter le matériel. Nous apercevons un sac de couchage, un fauteuil pliable, un réchaud à gaz miniature, une gamelle pour son strict quotidien, mais aussi sa lunette télescopique pour observer à distance, sans être vu, camouflé par une tente. Il porte un matériel conséquent dont l'inventaire varie avec les saisons, selon la régularité de la recherche des loups ou la montée du matériel électronique. Et plus tard, il va jusqu'à monter une tente de camouflage et une caméra pour pouvoir sanctifier le face-à-face, après les traces, le loup devant la caméra. Les limites de cette rencontre respectueuse de l'animal sauvage consistent à ne pas l'apprivoiser, à l'inverse des parcs à loups où l'animal est nourri et parfois même caressé par certaines personnes. Le cinéaste ne souhaite surtout pas l'accoutumer à la présence des hommes, comme le laisse entendre le titre du film qui efface l'homme, simple invité dans la vallée des loups. À ce propos, il est à noter que les défenseurs des loups valorisent ce prédateur en lien avec l'équilibre naturel, avec deux arguments. D'une part, il joue son rôle de régulateur face à l'arrivée massive des brebis et des moutons qui sécrètent leur propre déséquilibre dans la nature, surpâturage, piétinement, déjection nocive avec les médicaments donnés aux bêtes. D'autre part, le loup révèle les failles des protections des bergers ou des enclos dont les bêtes n'ont pas vocation à servir à long terme de garde-manger à ciel ouvert pour cet animal qui préfère la plupart du temps chasser des animaux sauvages, surtout les cerfs et les sangliers. Il n'est jamais question dans le film de présenter les arguments de l'autre camp. La quête filmée a valeur d'exemple, de ténacité, de beauté naturelle, d'exploit physique et du plaisir éphémère de la pure contemplation du loup. Si le petit carnet en cuir noir du cinéaste apparaît très tôt dans le film, il sert à dessiner le tracé des repères géographiques des espaces traversés. Cet objet au cœur du film lui a aussi vraisemblablement servi de préparation à la voix off, cette voix qui commente les images après coup. Cette voix qui se superpose à la voix en direct dans les images. Cette voix off, à l'image de ce carnet, c'est la source de l'écriture du journal intime. Outre certaines explications, le retour du loup en France par l'Italie, la voix off du film documente une vie au jour le jour, les repas, les saisons, et ajoute des réflexions existentielles personnelles sur la place de la nature dans une vie et sur la défense du réalisateur pour les loups. Le réalisateur a d'ailleurs un timbre de voix particulier. Il a aussi son vocabulaire, tantôt précis et scientifique, avec le nom des animaux, tantôt poétique, le petit peuple discret de la forêt magique. Et à plusieurs reprises, il peut même être très grossier, parfois sous le signe de la colère ou pendant les moments les plus difficiles, physiquement ou psychologiquement.